très bien qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur des conséquences de leurs paroles. Et c'est ça qui ne va pas. Tu vois, quand je racontais tout à l'heure dans la salle d'attente, le psychiatre qui dit « ça, c'est la vie privée », c'est comme si on commençait à s'en mêler quand l'enfant était vraiment en danger. Mais avant qu'il soit vraiment en danger, tu fais rien. Et l'enfant se tait parce que il y a rien d'imaginable, en tout cas, encore, où il pourrait... des lieux où il pourrait s'adresser pour qu'on réfléchisse avec lui à ce qu'on peut faire pour que, à la fois, il puisse rester... dans sa famille et à la fois que son parent puisse être soigné, quoi.
En gros, c'est nous qui le mettons en danger, quoi. Mais on donne pas la réponse que qu'il a en droit d'attendre, parce que bon, je pense qu'on est dans une société, d'autant plus qu'on est un pays riche, on a les moyens. Je ne comprends pas, moi, que on puisse manquer de personnel dans un hôpital. C'est un choix de société. D'autant plus que c'est souvent la société qui nous déglingue. Hein, et il y a une grande partie des situations dont on met les gens dans des situations tellement inextricables que forcément ça ne peut pas aller bien. Hein, je veux dire, et puis après, on n'assume pas. Voilà, on n'a pas les moyens. Par contre, s'il faut fabriquer des armes, des bombes, etc., là, il y a des sous, renforcer les services de sécurité, plus de gendarmes, plus de... Là, il y a des sous. Mais par contre, pour l'hôpital ou pour s'occuper des gens, mais pour leur bien-être, alors ça rapporte pas. Hein. Et puis bon, qu'on ne nous dise pas que c'est un coût aussi. Là, je fais une petite dérive parce que moi, je rappelle quand même que dans une société, la sécurité sociale, le soin, l'éducation, c'est une part de la richesse produite collectivement qui est affectée à traiter un certain nombre de sujets, l'éducation, la santé, et que donc ça ne peut pas avoir... on ne peut pas, par exemple, la sécu en dette... C'est pas possible. Pour moi, c'est pas entendable. C'est-à-dire que ici, il y a une plus grande partie qui est affectée aux soins parce que, eh bien, c'est comme ça. Hein. Si on fait une société où il y a un maximum de gens qui iront bien, ça nous coûtera moins cher. Faut prendre des problèmes comme ça, quoi. Et la psychiatrie, c'est encore pire parce que c'est le parent pauvre de des soins. Moi, je suis bien placé pour en parler. Hein. J'ai travaillé 35 ans en psychiatrie avec des enfants. Et que dire c'est souvent réduit au gardiennage. Hein. Et bon, bah, on n'est pas là, je ne sais pas, on ne fait pas des études d'éducateurs spécialisés ou de psychiatres, etc., pour organiser le gardiennage. Hein, et quand il y a des réformes et tout ça, sous des aspects, bénéfiques, on nous fait passer des trucs, des solutions, des propositions qui vont faire que ça va coûter moins cher. Hein. Bon, je vous donne un exemple, ce sera peut-être plus clair. Moi, j'ai travaillé en hôpital psychiatrique, qui avait, quand je suis arrivé, dans les années 70, eh oui, je suis très vieux. Il y avait 200 enfants dans les murs de l'hôpital psychiatrique. Bon, alors effectivement, quand on a, nous, prôné les hôpitaux de jour, hein, c'est quand même mieux, c'est quand même moins asilaire, c'est des petites structures. Mais en fait, pourquoi le système capitaliste dans lequel on est a plutôt accepté d'un bon œil ces propositions qui sont bénéfiques, de toute façon, il ne faut pas le nier, ben, c'est simplement parce que l'hôpital psychiatrique avait un prix de journée qui coûtait bonbon, comme on dit, hein, qui coûtait très cher, et que quand tu prenais en charge les enfants en hôpital de jour, eh ben, ça coûtait moins cher. Et puis ensuite, on va faire une proposition. Ah, mais on n'a qu'à faire des ateliers thérapeutiques dans les CMP. C'est-à-dire qu'on va les prendre en charge quelques heures dans la semaine, etc. Ben, ça coûtera encore moins cher. Voilà. Et du coup, tous les aspects bénéfiques pour lesquels on va pousser, nous, eh ben, on va se faire avoir finalement parce qu'on n'aura pas plus de temps à consacrer à des enfants qui seront pris en charge quelques heures dans une structure ou à la journée dans des hôpitaux de Jouan.
Mais c'est ce qui se passe en Belgique. Alors, on a de la chance en Belgique parce que l'état de la psychiatrie n'est absolument pas du tout, j'espère que je ne dois pas dire encore, celui de la France. Mais malgré tout, on arrive quand même à une situation où il y a de moins en moins de psychiatres. Donc c'est un peu une catastrophe. 6 mois, 7 mois, 8 mois de liste d'attente pour voir un psychiatre. Mais ceci dit, il y a une diabolisation de l'hôpital psychiatrique. La réforme en santé mentale, c'est vraiment basé sur tous les excès qui ont eu lieu en hôpital psychiatrique. Ce que tu dis, du gardiennage, des gens qui ont traîné pendant des années en hôpital psychiatrique, etc. Pour dire bah, il faut diminuer drastiquement, il faut geler des lits d'hôpitaux pour développer l'ambulatoire. C'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivée à l'hôpital de Manage il y a 14 ans. Non, en fait, j'ai été engagée pour justement ouvrir l'hôpital psychiatrique, désinstitutionnaliser, mais amener comme ça toute la psychothérapie institutionnelle et une respiration dans l'institution. Et très vite, je me suis retrouvée aux équipes mobiles parce que la réforme était passée par là et qu'il fallait geler des lits et aller travailler au domicile. Alors, j'adore ce travail. Enfin, je préfère 1000 fois travailler au domicile que dans un service psychiatrique. Je suis aussi responsable de l'hôpital de jour qui, lui, est un tout autre lieu qui est super intéressant aussi. Mais moi, j'ai toujours soutenu que, voilà, il y a des hôpitaux qui ont travaillé d'une certaine manière, mais il y a aussi des hôpitaux qui font un boulot absolument remarquable et qu'il fallait en même temps et soutenir la qualité du travail dans les hôpitaux psychiatriques et surtout ne pas diminuer le nombre de places et développer les prises en charge à domicile. Et on voit bien, enfin je vois bien dans le réseau autour de moi, il y a des hôpitaux, des services psychiatriques d'hôpitaux généraux où un patient en 20 jours ne voit pas un psychiatre. En 20 jours ne voit pas un psychiatre. Et puis le patient sort et puis il y a un suicide. Et puis un statisticien en école de santé publique qui va nous dire il y a beaucoup plus de suicides chez les gens qui sortent de l'hôpital psychiatrique dans le mois qui suit la sortie de l'hôpital psychiatrique ou d'un hôpital général. En fait, c'est que les gens n'ont pas été correctement pris en charge. Lui, la conclusion qu'il tire, c'est que les hôpitaux ne sont pas bons. Enfin, on est toujours dans des espèces d'interprétations comme ça, absolument des raccourcis effroyable, mais si on travaille bien en hospitalisation et qu'on travaille bien en ambulatoire et qu'on articule les deux et qu'on peut vraiment mettre en place des soins de deuxième ligne et de première ligne articulés à une hospitalisation, là vraiment ça donne des résultats et j'en ai plein de résultats quand on arrive à travailler comme ça. Ce qui ne va pas, c'est quand la qualité manque, quand la qualité manque au niveau des hôpitaux. Mais ça tient beaucoup aux directions, ça tient beaucoup aux médecins responsables, ça tient beaucoup à la volonté de l'hôpital, en fait. Alors, nous, en Belgique, on n'est pas sectorisé. Je pense qu'en France, la sectorisation, ça amène aussi d'autres difficultés où les gens n'ont pas toujours le choix. Enfin, je me souviens de maman un peu désespérée qui m'avait appelée en disant « Ma fille est si bien dans l'hôpital, mais c'est pas dans mon secteur, on ne peut pas y retourner. » C'est encore d'autres questions que nous, on ne connaît pas encore en Belgique, en tout cas. Mais globalement, je dirais qu'il y a une sorte de position des services publics qui est de cliver, de dire les hôpitaux sont mauvais, l'ambulatoire c'est bien, et qui voilà, qui amène pas à des choses constructives.
Mais en même temps, attends, parce qu'il y a un micro s'enregistrer, c'est en direct, donc tu peux, non mais tu peux poser la question. Il va y avoir
avec le micro,
pas de problème. Mais
est-ce qu'il n'y a pas un niveau intermédiaire entre la prise en charge à l'hôpital et la prise en charge en famille, qui est la communauté, le groupe, la collectivité.
Il faut qu'il parle plus près, mais sinon ça... Voilà.
Mais complètement, et on y revient à propos des enfants, tu vois, où la situation reste malheureusement, où on les laisse vivre avec, c'est que ça tient, où on les place. Et le niveau qui manque entre les deux, c'est justement cette idée de « il faut tout un village pour élever un enfant ». Et que voilà, il faut mettre des personnes qui réfléchissent, qui sont aux côtés de l'enfant, que ce soit du secteur adulte ou du secteur enfant d'ailleurs. Un des problèmes, Un des problèmes, je trouve, que c'est cette espèce de division. On a parlé de la division du travail à l'époque, mais c'est quelque chose de toujours... cette division continue toujours de m'étonner. Les psychiatres adultes ne se sentent pas autorisés à parler aux enfants. Pourquoi ? Ils disent, on n'a pas de formation enfant. Je dis, mais vous avez des enfants. Oui. Oui. Vous leur avez parlé de votre métier. Oui. Vous en parlez comment de votre métier ? Oh, c'est pas toujours facile. Ouais. La fille d'une collègue était allée chercher à la bibliothèque, l'avait ramenée de l'école, de la bibliothèque de l'école, un petit livre qui est « Lily n'aime pas quand, quand maman boit trop ». Et vous voyez la série des Lily, les petits livres pour enfants. Et sa mère lui a dit « Mais t'es folle, t'as ramené Lily n'aime pas quand maman boit trop de l'école, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» etc. Mais je bois pas trop, enfin, c'est quoi ? Et enfin si, je bois trop de temps en temps, mais... Et puis j'ai dit à ma collègue, j'ai dit « Mais enfin, t'es quand même, tu travailles en alcoologie ?» Ben oui, qu'elle me dit. Ben, je dis, ça t'étonne que ta fille, elle s'intéresse à ton boulot ? Oh, ben j'avais pas pensé à ça. Et donc, ça montre à quel point la stigmatisation, la peur de la stigmatisation, elle est présente même chez les professionnels. Même chez les professionnels, il y a... Alors, t'as cette division. Alors, tout ça, il y a toujours des raisons derrière, souvent inconscientes. Mais l'adulte, il est fait pour parler aux adultes. Le pédopsychiatre, il est fait pour parler aux enfants. L'hospitalier, il est fait pour travailler à l'hôpital. L'ambulatoire, il est fait pour travailler. Et donc, il y a une espèce d'éclatement comme ça, où chacun est dans sa spécialité, parfois son hyper spécialité. Maintenant, il y a des services pour bipolaire, des services pour borderline, des services pour... Et donc, il y a cette question de la globalité qui n'est... Enfin, Toscaïès, qui est un des grands résistants, qui était à Saint-Alban, un psychiatre, disait, on n'a pas fini de diviser l'être humain en tranches, en tranches d'enfance, d'ados, d'adultes, etc. C'est une chose. Mais la question du collectif, comment la réintroduire ? Je trouve que c'est vraiment une question. Hein. Comment tu pourrais, que ce soit dans des lieux, des CMP, des hôpitaux, etc., réintroduire quelque chose de l'ordre de que tout le monde est concerné par cette histoire-là. Et que c'est pas parce que tu t'occupes de l'enfant de ton voisin que tu es en train d'être intrusif dans sa vie privée, quoi. Je me souviens d'une petite fille que j'ai vue adolescente et qui racontait la première fois que sa maman était partie en phase délirante. La mère est partie en rue en enfermant la petite derrière elle. Et puis elle est arrivée, la police, l'hôpital psychiatrique, etc. Et donc finalement, la police est allée délivrer cet enfant et qui a été hébergé par la voisine. Et on reparlait de ce moment-là. Elle me disait qu'elle avait eu très peur quand la police avait défoncé la porte pour la récupérer. Mais j'ai dit, et ta maman, t'as eu peur de ce qui s'est passé avec elle ? Ah ben non, c'est la voisine qui m'a expliqué. Elle a des petits bonshommes qui parlent et qui courent dans sa tête. Et ça a fait tellement sens pour elle. C'était un petit mot dit par une voisine, mais qui ont permis de comprendre quelque chose de la maladie. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, hein, les images, etc. Mais qui sont souvent plus justes que les diagnostics. Hein, parce que bipolarité, qu'est-ce que ça veut dire ? Schizophrénie, qu'est-ce que ça veut dire ? Comme me disait une patiente, schizophrénie, avant même que le mot soit fini, on a déjà compris que c'était très très compliqué.
Oui, puis en plus, il y a les frontières entre les maladies mentales. Alors, c'est sûr que nous, on est dans un système très hiérarchisé, etc. Alors, du coup, maintenant, même, on définit DSM 3, 4, 5, je ne sais plus à combien on en est. Alors, c'est les symptômes. C'est-à-dire que maintenant, on catégorise les gens en symptômes. Et si, voilà, tu as tel symptôme, et ben tu as telle maladie, tu as tel médicament. Et puis, voilà. Donc, mais ça déresponsabilise complètement l'être humain. L'être humain, c'est quelqu'un de complexe. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de... On peut effectivement porter des diagnostics. Il y a une partie qui est somatique, qui est physique, et on a des réponses médicamenteuses. Mais c'est la prise en charge. Non, elle compte aussi. Hein. Si on compte que sur les médicaments, alors effectivement, on pourra bientôt remplacer les infirmiers par des robots. hein, dans la société.
Et soignés par l'intelligence artificielle.
Voilà. Non, mais il faut faire. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Là, quand on parlait de sectorisation, enfin non, c'est pas sectorisation de.
Moi, je parlais de division.
Ouais, de division, etc. Mais c'est complètement aberrant. Je veux dire que on joue l'ambulatoire contre l'hospitalisation. C'est la même chose. En fait, ce qu'il faut, c'est... Alors, c'était un peu l'esprit de la sectorisation en France, mais c'est tellement dévalorisé, dévié, déformé, qu'on se retrouve avec plus de problèmes que de réponses, alors que c'était quelque chose de plutôt bien. Je veux dire, si on travaille en équipe, en plus qu'on utilise des méthodes comme, par exemple, l'entraide, ça coûte pas cher, hein, c'est pas un médicament, l'entraide. Hein, et qu'est-ce qui empêche un enfant ou un adulte être traité en ambulatoire et puis qu'à un moment de crise, etc., il y ait la possibilité d'une hospitalisation, pas forcément de très longue, hein, qui peut même être laissée au choix du patient dans les trois quarts du temps. Hein. C'est-à-dire que s'il faut 2 jours, s'il faut 3 jours pour se requinquer, etc., et revenir, et puis mettre en place, dans le cadre de l'ambulatoire, la prise en charge des enfants avec tout un justement le voisin, les voisines, etc. Il n'y a pas besoin de placer forcément les gens quand c'est juste pour quelques heures, quelques jours. Et ça, c'est des choses qu'on a perdues. C'est-à-dire la gestion par le collectif du mal-être des gens. Et ça, on le fait quand il y a une situation, je ne sais pas moi, il y avait eu un incendie dans le village, la maison a cramé, et la personne se retrouvait sans rien. Mais il n'y a pas eu d'institution. Je veux dire, les gens, ils sont réunis, et voilà, et il faut des fringues, il faut des couvertures, il faut trouver un logement de. Mais ça s'est fait, allez, naturellement. Tu vois, ce genre de truc. Ben, il faudrait qu'on ait tout ça à l'esprit. Hein.
Alors, chez nous, en Belgique. Quand une maman solo avec un enfant est hospitalisée, l'enfant est placé. Si en psychiatrie, on sait que c'est pas comme une appendicite, c'est pas pour 3-4 jours, c'est pour au moins 3-4 semaines. Et donc, si tu veux trouver une place en famille d'accueil d'urgence, il y en a très peu. Mais de toute façon, tu dois passer par le service d'aide à la jeunesse. Et si c'est une place en institution aussi, évidemment. C'est pour ça que les mères en particulier, qui sont seules avec des enfants, repoussent des soins nécessaires, parce qu'elles ont peur, et à juste titre, que leur enfant soit placé, parce qu'elles sont jamais sûres de le récupérer, l'enfant placé. Hein. C'est des espèces de spirales comme ça, où une fois que tu es hospitalisé, comme avec ton enfant a été placé, en sortant, tu dois prouver que tu es capable de t'occuper de ton enfant. Mais je ne sais pas qui d'entre nous pourrait prouver qu'il est capable de s'occuper de son enfant. Ouais. C'est un truc, moi, quand je vois ce que les services d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse exigent de la part de parents qui sont passés par l'hospitalisation en psychiatrie, c'est des trucs que moi, je n'aurais jamais pu faire.
Ouais. Et puis même cette
et donc, mais attends, on parlait de... J'ai perdu le fil, du coup.
Je suis désolé.
Mais... Donc... Zut. De quoi tu parlais juste au moment où je t'ai interrompu ?
Non, c'est moi qui t'ai interrompu. C'est un sketch, c'est en direct. Bon.
Oui, je ne retrouve plus le fil. Mais bref, celui que j'essayais de suivre, en tout cas, c'est celui de la question de monsieur qui est qu'est-ce qui peut un moment refaire collectif ? Qu'est-ce qui peut faire. Chez nous, comme ça, un peu intermédiaire entre l'hôpital, l'ambulatoire et qu'il soit d'ordre collectif. Je trouve que c'est une bonne question. On parle beaucoup de père aidance en France aussi, des groupes d'entraide mutuelle, de la père aidance. Donc, heureusement, on avance sur cette question-là. On a peut-être loupé une question ? Non, d'accord. Non. Ok. Mais donc... Ah oui, c'est ça. Voilà, je voulais revenir sur comment sortir aussi des cases dans lesquelles on se sent complètement assigné. Et ça peut même exister au sein de l'hôpital. Ce que tu disais me rappelait une situation qui s'est passée il y a quelques années à l'hôpital. On est un vendredi midi, Et il y a une patiente qui est hospitalisée dans un service et qui avait annoncé à son mari qu'elle le quittait. Elle avait rencontré quelqu'un d'autre dans le service pour qui elle voulait quitter son mari. Ça arrive assez souvent dans des services de psychiatrie, des patients tombent amoureux l'un de l'autre parce qu'ils ont des parcours un peu similaires et qu'ils se sentent compris mieux par quelqu'un qui est passé par là que par quelqu'un qui n'est pas passé par là. Et donc le mari arrive avec leur petite fille de 6 ans et il essaye de la tuer. Donc il brandit un scalpel et il l'attaque à la gorge. Elle en réchappe de peu, mais bref, on est vendredi midi, la mère est partie en ambulance aux soins intensifs, le père est en fuite, poursuivi par la police, et la petite est là, elle a 6 ans, elle est seule dans ce service de psychiatrie où on m'appelle. Alors, un dispositif que j'ai eu la chance de pouvoir créer à Manage, qui est magnifique, c'est ce qu'on appelle l'espace enfant-famille. Donc c'est des permanences le mercredi et le samedi après-midi où toutes les familles avec enfants peuvent venir, se retrouvent, sont accueillies. Et les permanences sont assurées entre autres par des gens qui sont détachés des services, qui viennent faire 2 heures, 4 heures à l'espace enfant. Et il y avait justement dans ce service une éducatrice qui connaissait cette petite fille parce qu'elle l'avait vue à l'espace enfant. C'est des petits trucs tout simples, hein, comment tu peux bricoler au sein même de l'hôpital des petits trucs comme ça qui coûtent pas cher mais qui amènent beaucoup. Et donc l'éducatrice m'appelle en disant il faut qu'on discute avec elle. Et donc déjà tu te rends compte que les perceptions des adultes et des enfants ne sont pas les mêmes, parce que je débriefe un peu avec elle et je lui dis mais t'as dû avoir peur quand t'as vu tout le sang qui coulait. Et elle me répond, ah non, j'ai pas eu peur de ça, parce que maman, ben, elle boit trop, c'est pour ça qu'elle est à l'hôpital, elle a 6 ans, hein. C'est pour ça qu'elle est à l'hôpital, mais donc elle est déjà tombée à la maison, à la table en verre, donc du sang, j'en ai vu, c'est pas ça qui m'a fait peur. Ce qui m'a fait peur, c'est de voir papa faire du mal à maman, et ça j'avais jamais vu. Et donc, elle met tout de suite. Et je l'aurai revue après avec sa maman, etc. Mais dans ce vendredi midi-là, en fait, la question très chaude, c'est où va-t-elle aller, cette petite fille ? Donc, on fait le tour avec elle des proches, oncles, tantes, frères et sœurs, personne. C'est une famille complètement isolée, en fait, ce qui est quand même souvent le cas quand il y a des gros problèmes. Et donc, on ne trouve pas. Et donc je lui dis, mais écoute, voilà, l'instant social du service, il a prévenu un jeu de la jeunesse pour qu'on essaie de trouver une place en institution. Il faut bien que tu ailles dormir quelque part. Et donc il y a des centres d'accueil d'urgence qui sont prévus pour ça. Et la petite de 6 ans me regarde comme ça, elle me dit, moi, en institution, mais il n'en est pas question, j'ai ma rentrée à l'école lundi, mon cartable est prêt, ma copine m'attend. Moi, je ne veux pas partir d'ici. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas dormir ici ? Dormir ici, c'est dormir à l'hôpital psychiatrique pour adultes. Je dis, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Pourquoi tu ne pourrais pas dormir ici ? Donc, j'appelle ma direction, mon médecin-chef d'abord, qui était justement avec le directeur général, ça tombait bien. Je dis, écoute, voilà, il y a une petite, si on la place aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'à quand... Mais t'es folle, c'est pas possible, etc. Trouver une autre solution. Je dis, ben, essaye d'en trouver une à mon médecin-chef. Une heure plus tard, il n'y a toujours pas d'autre solution. Entre-temps, ils ont discuté avec la chef nursing, etc. Et il me dit, écoute, si le juge est d'accord, on peut peut-être la garder jusqu'à lundi. Le juge était reconnaissant au téléphone. Oh, merci. Parce que trouver une place en centre d'accueil d'urgence, c'est déjà... Alors, c'est ici que... Et donc, la petite est restée, elle a passé le week-end, et le lundi matin, la maman est sortie de l'hôpital, elle a récupéré sa fille, elle est rentrée chez elle. Et on a évité le placement, en tout cas, à ce moment-là. Et je trouve que c'est vraiment des moments tellement importants, parce que c'est vraiment des trajectoires de vie qui s'infléchissent à certains moments. Si cette petite avait été placée, le jour même, elle allait en centre d'accueil d'urgence... Elle ratait son entrée, sa rentrée à l'école, à 6 ans, elle ratait sa copine. Après avoir vu son père agresser sa mère, donc c'est quand même drôlement traumatique, elle aurait été arrachée de chez elle, de son école, de ses copines, de son quotidien, de sa rue, de ses odeurs. Enfin, dans le livre de Delphine de Vigan, « Rien ne s'oppose à la nuit », elle raconte ça magnifiquement. Elle aurait été arrachée de tout ça, placée dans un centre, en plein trauma, placée dans un centre avec des gens qui n'avaient pas vu ce qu'elle avait vu, et déplacée tous les trois jours, parce qu'en Belgique c'est comme ça, quand les premières places disponibles en centre d'accueil d'urgence. Il y aurait eu sans doute une évaluation de la maman. On aurait dit que comme elle sortait de psychiatrie pour des problèmes d'alcool, elle aurait eu un peu de mal à prouver qu'elle était capable de s'occuper de sa fille. Et je pense que la gamine, elle aurait risqué d'être toujours placée. Mais c'est comme ça que tu crées du handicap, des fragilités chez l'enfant. C'est pas la mère ou le père en traumatisant directement qui va causer tous les problèmes que cette petite fille pourrait avoir. C'est le fait que, après un trauma, on l'arrache complètement de tous ces ancrages. Donc on crée du trauma sur du trauma. Tu crées de la déscolarisation, parce qu'elle aurait raté son entrée. Elle n'aurait pas été scolarisée tout de suite, ça faisait encore une année de loupée, etc. Et c'est comme ça que tu as des destins comme ça qui à un moment basculent, parce qu'une décision de placement trop rapide et pas de solution alternative. Alors pour nous, ça a vraiment été super intéressant de voir comment un hôpital peut à un moment dire ah « ben oui, on sort de notre cadre, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas héberger un enfant pourvu que le juge soit d'accord deux jours ?» Bon, ça n'a rien coûté, hein, on n'a pas facturé. Il fallait que l'hôpital l'accepte. Et maintenant, je suis très contente parce que quelques années plus tard, dans le nouveau service d'accueil d'urgence, on a créé une chambre familiale pour qu'au moins, et maintenant qui est reconnue comme telle, pour qu'au moins un parent hospitalisé en crise puisse être accompagné de son enfant ou de son conjoint.
Parce qu'il faut faire vraiment attention. On peut être maltraitant en institution, hein. Parce que là, ça porte un nom, hein, ne pas trouver la solution, qui n'était pas compliquée à trouver quand même, hein, bon, dans cet exemple-là. Et pourtant, les trois quarts du temps, bon, voilà, la hiérarchie qui appelle la hiérarchie, ça ne peut pas se faire, c'est interdit. Et c'est, on est toujours confronté, moi j'ai été confronté à des cas. Vous savez que quand on est hospitalisé en psychiatrie en France, on a un dossier. Alors imaginez quand un gamin arrive en hôpital psychiatrique pour trouble de comportement, que tu discutes avec eux, mais tu as tout de suite compris en discutant avec le gamin que c'est des conditions sociales. Le gamin, il a pas des troubles psychiatriques. Il a des troubles de comportement parce qu'on le met dans une situation où il peut pas gérer, c'est un gamin. Et donc, on lui fait un dossier, il est en psychiatrie. Alors bien sûr, faut pas trop cracher dans la soupe, comme on dit, hein, mais il y a des équipes, le gamin il va pas rester en psychiatrie s'il a rien à y faire. Mais n'empêche que ce dossier-là, il existe. Si le gamin à 15-16 ans, il fait une connerie comme tous les trois quarts des gamins font, il a un dossier en psychiatrie. Et la première chose que les journalistes ils vous mettront dans un article, c'était un gamin qui avait été déjà en psychiatrie quand il était... la stigmatisation c'est vraiment important. Et moi, je trouve que je me suis fait sanctionner parce que je refusais, pour certains enfants où c'était manifestement pas... ça ne relevait pas de la psychiatrie, de faire un dossier. On peut le prendre en charge comme ça, en plus, comme on dit. Hein, on est là pour ça. Hein, voilà.
Donc pas de dossier, pas d'argent non plus.
Hein, mais c'est ça, l'administration, elle veut un dossier. Pourquoi ? Parce que bon, après une journée qui arrive, c'est quand même dans le... Mais bon, nous, en tant que travailleurs sociaux, on n'est pas forcé d'avoir les mêmes réactions aussi. Hein, bon, après, il faut savoir être illégal. L'illégalité, c'est pas forcément l'illégitimité, hein. Faut pas confondre, hein. Moi, tu me feras pas faire un truc que je ne veux pas faire, hein. Voir, ça va être dur.
Je vois bien notre hôpital est en processus d'accréditation. Alors l'hôpital de jour dont je m'occupe, c'est celui qui a le meilleur taux d'occupation. On est à 110% en permanence, etc. On bouge tous les trous des autres services. Les patients sont contents. On a une centaine de personnes en liste d'attente. Donc a priori, ça tourne plutôt bien. On s'entend bien dans l'équipe, etc. On a eu les plus mauvais points des accréditeurs. Pourquoi ? Parce que quand un nouveau travailleur arrive, on se met à côté de lui, devant l'ordinateur, on lui montre. On va le présenter aux patients, on a un groupe d'accueil des patients qui lui explique un petit peu comment ça fonctionne, etc. Et il y a toute une transmission de bouche à oreille sur comment on travaille ici. Mais on n'a pas écrit ça en procédure. Et donc, pour avoir nos bons points, il fallait qu'on rédige toute notre manière de travailler. Parce que si quelqu'un qui n'avait jamais travaillé à l'hôpital le jour, venait travailler un jour à l'hôpital le jour, il faudrait bien qu'il puisse lire toutes les procédures. Ben non, je suis désolée, il n'aurait même pas le temps de les lire. Il faudrait une journée. c'est quand même un peu fou vers où ça va. Hein, une transmission orale, c'est pas bon. Or, c'est ça qui fonctionne. C'est que ça qui fonctionne, hein. C'est de se parler. Enfin, dans mon boulot d'équipe mobile, je passe quand même beaucoup de temps au téléphone. Appeler le médecin traitant, quelqu'un qui connaît le patient, un copain du patient. Tu tricotes en parlant aux uns et aux autres. Quoi.
Oui, là, et on nous demande de passer notre temps soit à remplir des dossiers, soit à faire des schémas. Alors là, il y a plusieurs points. C'est la motricité, d'accord. Donc 3, 4, ou 4, et hop, après là, c'est pour...
Le risque suicidaire aussi, il faut coter le risque suicidaire.
C'est très parlant, les tableaux. Sauf que moi j'ai fait l'expérience dans une réunion, un gamin qui était hyper connu de l'hôpital psychiatrique, qui avait été codifié comme ça, et j'ai demandé à une autre personne, qui pratiquait les codifications, de me décrire l'enfant, comme c'était un gamin qui est en psychiatrie qui était hyper connu parce qu'il était débordant d'imagination notamment, et personne ne l'a reconnu. Alors, je dis, à quoi ça sert de nous faire passer des heures là-dessus alors que ça marche même pas sur un cas évident? Moi, je propose qu'on, s'il y a des questions, puisque on arrive dans le dernier quart d'heure, comme on dit, hein, c'est pas les 5 dernières minutes, c'est presque. Donc, si vous avez des questions, il faut y aller. Hein, faut en profiter. Voilà. Sur la psychiatrie, ça interroge quand même des fois. Mais pas de questions? Bon, voyons, c'était une présentation nickel, alors. voilà. Bon, moi, par exemple, je suis étonné que là, on est quand même à 10 minutes de l'hôpital psychiatrique. Et que, je ne sais pas, il y en a combien parmi vous là qui travaillent à Prémontré? On est quand même, des fois, payés...
Ou qui ont travaillé? Toi, tu as travaillé.
Voilà. On est au moins deux dans la salle, proportionnellement. voilà. Mais, voilà, c'est des... En tout cas, en France, ce qui a été décrit dans ce bouquin-là, c'est quotidien, hein. C'est-à-dire le fait de ne pas trouver le moyen d'entendre les enfants, je ne parle pas de les prendre en charge, même pas de les consulter, de les entendre, c'est le cas, j'allais dire, à 95% des situations. Hein. Donc c'est grave, hein, quand même.
Moi, ce que j'avais envie d'ajouter, c'est qu'on n'est pas en train de créer une nouvelle catégorie d'enfants en souffrance, les enfants de parents qui ont des troubles psychiatriques. C'est vraiment un piège dans lequel on n'a pas eu envie de tomber du tout, Cathy et moi, de créer comme cette nouvelle catégorie à risque, à repérer, à accompagner. J'espère que le message qui passe, c'est bien que ils sont dans une situation qui est compliquée pour eux, qui prend beaucoup de temps, qui leur prend beaucoup d'énergie, dans laquelle ils sont fort seuls. Et comme je dis souvent aux enfants, je dis, parce qu'on leur dit souvent, c'est pas à toi de t'occuper de ça, c'est pas à toi de faire ça. Moi, je dis souvent, c'est pas à toi de faire ça tout seul. Parce que l'enfant soit aidant, c'est bien. Je veux dire, c'est ça qui fait notre humanité, c'est quand même d'être des personnes aidantes. Et on ne serait pas autant de soignants. On n'aurait pas travaillé dans les soins si on n'était pas fondamentalement aidant. Donc on ne va pas reprocher à l'enfant de vouloir faire ce que nous on fait. Ce qui ne va pas, c'est qu'il le fasse tout seul. Donc voilà, il ne s'agit pas de repérer des enfants à risque, mais d'accompagner des enfants dans des situations compliquées. Et ces situations compliquées, elles rejoignent d'autres situations. Je fais le lien avec... l'interview précédente où on parlait du conflit Israël-Palestine et où il y a des enfants qui grandissent dans des pays en guerre. Et j'entendais une psychologue libanaise qui a grandi au Liban dans la guerre qui expliquait les non-dits des parents autour de la guerre. Donc comme si protéger les enfants de ce qui se passait, c'était ne pas leur parler. On retrouve les mêmes tabous sur des parents qui sont en prison. Ne pas parler aux enfants pour les protéger. Et donc, il y a plein de situations qui rejoignent un peu celles des enfants dont je parle, qui sont des situations finalement d'enfants qui sont auprès de parents, qui sont en souffrance, que ce soit parce que c'est des parents qui sont venus de loin, qui ont immigré, qui ont vécu des traumatismes épouvantables dans leur parcours de migration, que ce soit des parents qui ont eu des problèmes sociaux, qui ont été emprisonnés. Voilà, tout ça se rejoint. C'est comment finalement on peut être à côté d'eux, à côté des enfants, et sortir du silence en pensant que ne rien dire, c'est ça les protéger, quoi. C'est ça l'idée aussi. Et ça peut être le cas aussi d'enfants qui vivent des violences à la maison, parce que la violence conjugale, c'est pas le fait de personnes qui ont des problèmes psychiatriques ou qui sont malades psychiatriques. C'est le fait de beaucoup de personnes, comme vous et moi, mais qui ont des parcours différents. Donc la violence à la maison, c'est pas un problème psychiatrique. Et donc les non-dits qui sont mis aussi auprès des enfants qui vivent ça, hein, et qui souvent n'osent pas en parler aussi, de peur d'être placés. Donc c'est ça, voilà, c'est tout ça qu'on parle.
Toujours pas de questions. Ah voilà.
La base de la vie, en fait, c'est la communication. Si tout le monde communiquait,
parler plus près.
Si tout le monde communiquait avec les enfants, avec les adultes, il y aurait beaucoup moins de problèmes et il y aurait moins de non-dits et moins de secrets qui pèsent sur des générations et des générations. En fait.
Et à ton avis, qu'est-ce qui empêche de communiquer avec eux ?
Maintenant, je communique énormément, j'apprends aussi aux parents à communiquer avec leurs enfants. Et c'était un effet de génération aussi de politique où il faut tout cacher, il ne faut rien dire. Même la psychiatrie, avant, on l'a diabolisée. Moi, je trouve qu'au contraire, s'il n'y a pas de psychiatrie, ben, il n'y a pas de vie non plus, parce qu'au final, il y a un état mental qu'on néglige souvent. Et les maladies partent d'un trouble mental ou d'un choc ou d'autres choses. Et en prenant en compte ces
violences, hein.
De violence, ça crée des chocs et au final, ça crée des maladies. Donc, il faut prendre l'émotionnel en question, en priorité, pour éviter les troubles, les maladies. Ça peut être toutes sortes de maladies, en fait. Tout part de l'émotion, du non-dit, que si on communique, l'enfant va apprendre à communiquer. Et l'enfant sait mieux que l'adulte ce qui se passe dans sa vie. Et voilà.
C'est ça, l'enfant, il est au fond spontanément communicant.
Oui,
c'est nous qui freinons la communication.
Mais eux n'ont pas de barrière, en fait. Ils n'ont pas la même barrière que nous, adultes, au niveau du cerveau. Eux, ils voient quelque chose, ils le disent. Ils n'ont pas de filtre. C'est nous, non, tu ne peux pas dire ça devant mamie ou devant papy parce que ça va les choquer. Mais qui doit être choqué dans l'histoire ? L'enfant ne peut plus pouvoir parler. Parce qu'à la base, c'est la communication. Il faut les laisser s'exprimer. Après, il faut les laisser s'exprimer dans le respect, mais respecter l'enfant, c'est aussi respecter l'adulte et inversement. Des fois, on néglige aussi le respect au niveau de l'enfant. On dit « Ah oui, non, mais l'enfant, il faut qu'il se taise. » Donc, on ne le respecte pas. Comment on veut que ce soit un adulte respecté si on ne le respecte déjà pas ? Enfant, il faut montrer l'exemple du respect.
Tu me rappelles une jeune fille qui avait dit, elle me racontait qu'elle avait dit à son institutrice « Ma mère, elle est comme du beurre. » Et en fait, elle parlait de sa maman qui était complètement, qui n'était pas en psychiatrie, mais qui était quand même bien psychotique. Et elle disait, je dis, qu'est-ce qu'elle a répondu, l'instit ? Elle a dit, va faire tes maths. Et elle dit, cette jeune femme me disait, elle m'aurait dit, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça aurait tout changé.
Moi, mon fils, la dernière fois, m'a dit, mais je ne comprends pas les adultes. Parce qu'au final, ils nous apprennent à vivre seuls, mais ils sont incapables, eux, de vivre seuls. Et ils nous obligent, nous, à grandir et à vivre seuls. Ouais. Au final...
Des témoignages comme ça, il y en a plein là-dedans. C'est vraiment... c'est pour ça que c'est vraiment une grosse perte thérapeutique, là, pour le coup, de pas donner les moyens de les écouter, de les entendre. Parce que écouter, ça suffit pas. Mais Voilà, c'est mon, oui, encore du progrès à faire.
Et je trouve que ce qui est le plus touchant, c'est quand l'enfant se met à parler, parce qu'on voit toujours les enfants et les parents ensemble, et quand tu as un parent qui entend son enfant dire « Ah ben oui, ça fait 2 ans, je vois qu'elle est triste, elle ne me raconte plus d'histoire, elle a plus faim, elle ne fait plus de biscuits, des choses comme ça », et que le parent entend son enfant dire ce qu'il a vu, c'est extrêmement touchant. Et moi, j'ai vraiment vu des moments de bascule dans les... Parce qu'on a des parents qui sont parfois résistants aussi à aller mieux, etc. Et cette parole de l'enfant qui montre qu'il a vu le parent, ça fait basculer les parents du côté du soin. De vraiment... maintenant que j'ai entendu ça, c'est important que je prenne soin de moi. J'ai vraiment vu des moments comme ça où c'est quand même grâce au témoignage de l'enfant que le parent a pu changer.
Non, mais moi, je voulais rajouter, c'est que les enfants sont naturellement dans l'empathie, de toute façon. Et c'est nous, les adultes, qui n'y sommes plus, de toute façon. Ça me fait rigoler quand on remet les cours sur l'empathie pour travailler sur ça, mais alors qu'on n'est pas capable, nous, en tant qu'adultes, d'être dans cette exemplarité, de toute façon.
C'est pas faux. C'est même tout à fait vrai, pour dire.
C'est une belle conclusion.
Ah, eh bien, alors, on va donc... terminé. De toute façon, il nous restait quelques minutes, pas 3 exactement, plus que 2. Et je vous rappelle quand même que le livre de Cathy Collier et Frédéric Van Leuven, c'est Grandir avec des parents en souffrance psychique. Alors moi, je le redis, j'ai dit tout au début, c'est vraiment plus qu'abordable. C'est écrit d'une... Vous êtes bien démerdés, hein, pour... parce que c'est...
On est assez contente parce que des gens qui ne sont pas professionnels nous, voilà, disent qu'ils le trouvent parfaitement compréhensible, mais les professionnels nous disent qu'il n'est pas réducteur. Ça, ouais, c'est quand même un bon compliment.
C'est vrai, personnellement, je pense que c'est une poisse, hein, parce que des livres sur la psychiatrie, j'en ai lu, hein, sur la psychiatrie, sur l'antipsychiatrie, sur la psychanalyse. Alors là, c'est quand même le summum, je pense, hein, et pour ne pas comprendre. Et là, vraiment, moi, je trouve qu'on parle de l'essentiel avec des mots compréhensibles par tout le monde. Et effectivement, il n'y a rien qui est édulcoré, coloré, non, j'allais dire coloré, mais il y a de la couleur. Non, c'est vraiment...
C'est parce qu'il y a de la couleur qu'il est, que je n'en ai pas plusieurs exemplaires aujourd'hui, parce que l'éditeur m'a dit que comme il y avait de la couleur... Ouais. C'était beaucoup plus long à réimprimer.
Il y a un prix à payer.
Mais on a voulu laisser la couleur parce qu'il y a des collages. Il y a notamment, ouais, des collages d'enfants qui sont réalisés et dont certains sont réalisés en famille, ouais, en thérapie familiale, ouais, des collages à super, plusieurs.
En plus, c'est toujours vachement coloré et tout. Hein.
Et donc, je pense que vous pourrez trouver un exemplaire ouais, à la bibliothèque sociale.
Oui, de l'Étoile Noire à Lens. Et il est déjà à côté. Bon, j'ai dû l'emprunter pour le lien. Voilà. Et ben écoute, moi, il ne me reste plus qu'à te... Enfin, on finira là. Pour te remercier de ton intervention, puis d'être venu. Parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Et discuté un peu.
Nous faisions du tourisme à Lens. Et puis, voilà, nous sommes entrés absolument... Enfin, pas tout à fait par hasard, quand même, pleuvait. À l'Étoile Noire. Il pleuvait. Je suis partie avec une tonne de livres. Et puis Dominique nous a dit, après qu'on ait papoté pendant un quart d'heure, il a dit, attends, je vais fermer 5 minutes. Et il nous a montré
la bibliothèque
qui nous a complètement émerveillés. Et donc, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui.
On sait séduire, hein, nous, les vieux. voilà, donc, ben, écoute, merci. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on va se revoir.
Merci, voilà. En tout cas. Merci des connaissances, en tout cas, de toutes les rencontres qu'une journée comme aujourd'hui permet. Parce que vraiment, les collectifs contre la violence faite aux femmes... aussi le collectif LGBTQIA+, etc., que j'ai pu rencontrer belles personnes, des belles rencontres qui auront des suites, j'espère.
Forcément. La révolution n'est pas faite, donc tout est à faire. À bientôt.
Eh bien oui, à très bientôt. Ouais.
Oui, à très bientôt. On se retrouve en direct pour le prochain débat à 15h avec Nicolas Éprendre qui nous parlera de la pieuvre nucléaire. Et en attendant, un petit peu de musique.
Elle a les lèvres barbelées des enfants que l'on a fait taire. Ses rires cachent les colères des pétales martyrisés. La nuit traqueuse qu'il a, elle, lui dédie ses buissons ardents. Et des monstres phosphorescents paraissent quand elle les appelle. La la la. L'océan a mis pour mémoire des gouttes vertes dans ses yeux. Et pour terroriser les dieux, les peurs blotties dans les grimoires, ses cheveux que la feuille envie dans les doigts nerveux de l'automne sont des soies brûlées où frissonne la danse douce des vigies. N'habite que son corps, comme un nénuphar, une mare. Et les voluptés qui la parent sont des navires de haut bord. Elle est une vague infinie où naît l'extase des grands fonds. Mais on voit dans ses goémons flotter la robe d'Ophélie. Dans son univers, et moi, voyageur sans bagage, dont les yeux savent le naufrage des sources en quête de désert, j'accompagne dans son errance cette migrante sans chemin, comme on cueille pour son parfum la rose de désespérance. La 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 la.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien oui, on a failli avoir un blanc. Excusez-moi, je suis étouffée, essoufflée. Nous avons écouté Sarah Véron, Balade pour une errance. Et puis, ben alors on va écouter autre chose, je vous dis après ce que c'était.
Instinct grégaire ou peur de solitude, besoin de plaire ou de reconnaissance, il court après les mêmes habitudes, les mêmes envies, les mêmes différences. Quand il venait défiler au mois de mai, la fleur au bout des rêves et des pavés, le gros cigare fumant 30 ans après, les fleurs fanées de leur liberté. On leur apprend dès la plus tendre enfance à ne pas être une brebis galeuse, à se faire manger au gré des transhumances, la laine sur le dos à grands coups de tondeuse. Ils lisent, regardent, écoutent la même merde, s'habille toujours comme leur vend la mode, s'entasse partout de peur qu'ils ne se perdent. Paris la plage, au gré de la période, comme un troupeau de mouton. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on aura notre place au soleil, on formera bien d'autres bataillons pour une place sous des ombrelles. Pour protéger leur Dieu et leur patrie, leur petit confort et leur identité, pour que s'éloigne le loup de la bergerie. Ils changent leur veste et retournent leurs idées. Et en cortège, colonnes et processions, ils vont au vent des courants de pensée, conjurer leurs terreurs à l'unisson. Voter pour l'ordre et la sécurité, comme un troupeau de moutons. Soleil, on formera bien d'autres bataillons pour une place sous des ombrelles. Derrière le plus fort, derrière le plus riche, à la conquête de nos apparences, au royaume du mensonge et de la triche, et de nos veines et plus réelles ressemblances. On pense, on suit nos chiens, nos bergers, reniant nos disponibles cerveaux. On oublie que souvent la liberté s'est effacée à l'ombre des faisceaux, des troupeaux de moutons. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on aura notre place au soleil, on formera bien d'autres bataillons pour une place sous des ombrelles.
Les moutons, Stéphane Richez. Vous écoutez toujours Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Nous sommes en direct du Salon du Livre anarchiste de Merlieu. Le prochain débat sur la pieuvre nucléaire et l'antinucléaire de façon générale, et ce qui se passe à Bure, et tout plein de choses super intéressantes, à 15h. Ne quittez pas l'antenne. Un peu de musique en attendant.
En voilà un petit monde où il fait bon vivre. Méga dividendes, bénéfices, super profits. Le nanti s'engraisse quand la bourse l'enivre. Les usines dégraissent et le pauvre survit. La guerre des classes a bien lieu. Ils sont en passe de la gagner. J'aimerais avant que d'être vieux, grondé en masse, révolté. Et pendant que les politiques s'ingénient à goinfrer leurs potes, ils privatisent la sécu et ferment les postes. Il fallait réhabiliter la valeur du travail, travailler plus, vivre moins et gagner pot de balle. Eux s'augmentent bien en récompense de leurs efforts. Ils créent crise sur crise et ça ne leur porte pas tort. Toi, ton petit découvert, tu le payes très cher à ta banque véreuse, sauvée par tes impôts. L'argent va à l'argent, vive les milieux d'affaires. Nous sommes toujours manants et y a plus de poule au pot. La guerre des classes a bien lieu. Ils font tout pour la gagner. On va bosser de plus en plus vieux, peut-être même jusqu'à crever. Et pendant que les politiques se démènent pour les rentiers, on enterre nos services publics, on galvaude l'égalité. D'industrie, petits employés, emplois précaires, parachutes dorés, profits records chez Total, marée noire en Bretagne, crise du logement et chalet en montagne. La guerre des classes a bien lieu, ils font croire que c'est désuet. Social ringard, gaucho miteux, c'est pourtant d'actualité. Les politiques flattent au col les hauts bourgeois, ils nous jouent leur petite musique et méprisent la France d'en bas. La guerre des classes a bien lieu, ils sont en passe de la gagner. J'aimerais avant que d'être vieux, gronder en masse, révolter. Pendant que les politiques s'ingénient à goinfrer leurs potes, ils privatisent la sécu et ferment les postes. La guerre des classes a bien lieu, ils font tout pour la gagner. On va bosser de plus en plus vieux, peut-être même jusqu'à crever. Et pendant que les politiques jouent avec nos impôts, nous sommes toujours manants. Et y a plus de boulot.
Gilda, c'est les acolytes anonymes. La guerre des classes n'aura pas lieu. Ah bah oui, c'est difficile dans une salle publique de prendre la parole comme ça pour désannoncer un titre. Non, ce n'est pas tout à fait l'heure. On va encore écouter une chanson. Alors là, on ne l'a pas entendue depuis très longtemps, celle-là. Vous allez voir.
Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y a les ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure, ensemble. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, certains soirs tout à coup dans un coin on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici la dope c'est à la poignée, les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Y'a des bookmakers qui ramassent les mises. La nuit, dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler. À boire dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs.
Pigalle. Oh oui, bah oui, j'avais pas le bon micro. On vient d'écouter Pigalle dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Nous sommes toujours en direct du Salon du Livre Anarchiste de Merlieu sur Radio Libertaire 89.4 et je passe la parole à Serge et Nicolas pour le nouveau débat.
Oui, donc on va parler maintenant du nucléaire. Alors, nucléaire revient à la mode puisqu'il s'agit de sauver le climat et puis bon, nous avons un gouvernement qui veut absolument le relancer. Je pense que les auditeurs en ont entendu parler, c'est la propagande actuelle. Et donc, on va parler maintenant avec l'invité Nicolas Eprendre d'un livre qui a été sorti récemment par le réseau Macno, La pieuvre nucléaire. Alors déjà, Nicolas, je voudrais te demander, en expliquant un petit peu le réseau Macno, comment ce réseau Macno, qui avait, je crois, sorti un livre sur la situation en Ukraine, s'est intéressé au nucléaire et comment le livre a été mis en activité, comment il a été fait, et donc on peut rentrer dans le détail. Je crois qu'on va avoir aussi une information précise des nouvelles sur Bure à la fin de l'intervention. Voilà.
Alors peut-être avant de commencer, comme les gens sont en train d'arriver dans la salle, et donc rappeler aux auditeurs de Radio Libertaire, puisque nous sommes en direct sur Radio Libertaire depuis Merlieu, à l'occasion du Salon du Livre Anarchiste qu'organise le groupe Kropotkin comme chaque année. Et donc c'est à cette occasion que nous avons été invités à parler du nucléaire, du particulier de la pieuvre nucléaire. Et je voulais rappeler le titre du livre qui a été évoqué tout à l'heure par l'invité de Dominique qui s'appelle Frédéric Van Leuven. Et le livre, c'est « Grandir avec des parents en souffrance psychique ». Et c'est aux éditions Academia, Belgique. Voilà, donc ça c'était le livre de tout à l'heure. Donc comme je l'ai dit, on est sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. On peut soutenir Radio Libertaire qui doit une partie de son existence et de sa indépendance et de son indépendance au don de ses auditeurs, et pour ça c'est très simple. Il y a un site, c'est celui de radio-libertaire.org, et il y a un petit onglet sur le site nous soutenir. Donc voilà, pour entendre, comme on l'a fait jusqu'ici, des sujets qui sont peu évoqués et surtout pas de cette manière-là sur d'autres médias, n'hésitez pas à soutenir Radio Libertaire. Donc comme Serge le disait tout à l'heure, cet ouvrage, La pieuvre nucléaire, donc, a été édité aux éditions du Monde Libertaire, les éditions de la Fédération Anarchiste, il y a un an maintenant, fait suite à un autre petit ouvrage qui était l'œuvre du même groupe, ou association de personnes, qu'on appelait le réseau Macno. Il y a donc en 2022, au moment du début de la guerre en Ukraine, on a été quelques-uns à être assez saisis, je dirais, par le déclenchement comme ça assez brutal de cette guerre, et avoir l'envie de comprendre et aussi de ne pas avoir envie de se contenter des discours très formatés que les médias nous offraient, c'est-à-dire le méchant, le bon, et ainsi de suite. Donc on a eu envie de produire, en tant qu'anarchiste, une information qui ne soit pas binaire. Et donc ce petit livre a eu un certain succès, en tout cas a répondu à un besoin, semble-t-il. Et en plus, c'était dans un principe de texte assez court et à des prix abordables. Et donc, après la publication de ce premier livre, on a souhaité, je vois que notre mandaté aux éditions rejoint la salle et l'assistance, en amenant quelques exemplaires du livre. Et donc, on a souhaité transformer l'essai, ou en tout cas prolonger ce travail. On s'est dit, quel sujet ? Et donc, voilà, on était vers la fin 2022, et venait d'arriver un certain nombre d'annonces présidentielles sur le redémarrage, relance, enfin... Bon, est-ce que ça a jamais été abandonné ou arrêté ? Ça, c'est une autre histoire, mais une certaine relance, en tout cas, du programme nucléaire français. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir faire un livre, de proposer quelque chose sur le nucléaire. Donc, Serge Amécoté, qui a participé, peut aussi intervenir, puisqu'il a largement participé à cette production. Donc la pieuvre nucléaire, comment est-ce que ça s'est passé? Au contraire de Guerre en Ukraine, donc qui était ce premier ouvrage, qui a été rédigé par les membres du réseau Macno, pour le coup, on a fait appel à d'autres personnes. La plupart de ces personnes, en fait, ce sont des gens qui soit ont travaillé, pour certains, dans le nucléaire, ou en tout cas s'y intéressent depuis très longtemps, et qu'on a eu l'occasion de connaître au travers de l'émission Trou Noir que nous animons, Serge, Monique et moi-même, tous les lundis sur Radio Libertaire de 16h à 18h. Et donc c'est un peu comme ça que c'est construit un panel de personnes qu'on a souhaité solliciter pour la rédaction de ce livre.
Juste avant que tu continues, pour bien préciser, ce sont vraiment des militants de longue date des combats anti-nucléaires. Et ça paraissait important justement de à la fois de les inviter et puis de faire ce petit livre volontairement, mais qui donne justement divers aspects. Voilà, donc je repasse la parole.
Avant de donner un petit peu ce qu'est le sommaire du livre, je voulais revenir par un aspect qui est assez peu évoqué quand on parle de nucléaire aujourd'hui, qui est de fait le nucléaire militaire, puisque le nucléaire civil, donc les centrales, les cheminées des centrales sont un peu le l'iceberg qui voilà ce qu'on voit, ce qui apparaît, mais il y a une toute autre dimension, et je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que les parents du nucléaire, ce sont des bombes qui ont eu pour nom Little Boy à Hiroshima et Fat Man à Nagasaki. Et le nucléaire vient de là. Donc voilà, la première Hiroshima, c'est 75 000 corps volatilisés le 6 août 45. Nagasaki, 70 000 le 9 août à 11h02. Pour se remettre dans l'époque, et je cite donc des quelques parties du texte de l'introduction de notre brochure La pieuvre nucléaire. Le journal L'Humanité a cette annonce s'enthousiasme alors. L'Amérique, nous dit L'Humanité, vient de révéler au monde une découverte scientifique qui est bien la plus sensationnelle du siècle. Après cela, qui osera prétendre qu'il y a des limites à la connaissance scientifique. Pour une fois, il tombait d'accord avec François, qui, eux, disait « L'espèce humaine a réussi à passer à un âge nouveau, l'âge atomique. » Alors, seul comme souvent, dès le 8 août, bien avant Jean-Paul Sartre et d'autres, Albert Camus émet une critique dans Combat. Cette découverte se met d'abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l'homme ait fait preuve depuis des siècles. pardon, je perds la ligne. Dans un monde indifférent à la justice et au simple bonheur des hommes, la science se consacre au meurtre organisé. Les peuples doivent choisir définitivement entre l'enfer et la raison. On pourrait considérer qu'on en est toujours là. Et donc, ce qui était décrit comme une magnifique expérience scientifique, réalisée sur des cobayes humains, est de fait le résultat de la collaboration de scientifiques, militaires, politiques et industriels qui coordonnent, sous la responsabilité du général Leslie Groves, les activités de 300 000 personnes. Le même général, lui, s'en souviendra avec émotion. Tous les présents, disait-il, chrétiens, juifs, athées, priaient pour le succès. Même mysticisme de la part d'Oppenheimer, donc le scientifique qui a œuvré à la coordination de tout ça, le physicien placé à la tête du projet. Si dans le ciel se levait tout à coup la lumière des 1000 soleils, elle serait comparable à la splendeur de ce dieu magnanime. Et donc c'est lui qui a suggéré de donner à ce premier essai le nom de Trinity, la nouvelle Sainte Trinité, l'atome, l'énergie atomique et la radioactivité, ce qu'on pourrait, autrement dit, capitalisme, scientisme et mysticisme. Là aussi, on verra que la dimension très subjective, voire le mysticisme, reste une dimension très importante dans le déploiement du nucléaire. Comment est-on arrivé là ? Comment a-t-on pu arriver d'une création, d'une fabrication qui aboutit en quelques secondes et en deux fois à la disparition d'environ 200 000 personnes, à une industrie qui nous est présentée comme pouvant être la solution pour bien des problèmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le nucléaire, ça coûte extrêmement cher. Donc, j'ai dit tout à l'heure, le programme américain, le projet Manhattan qui va conduire à la réalisation de ces premières bombes atomiques coûte extrêmement cher et nécessite un effort financier colossal de la part des États-Unis à l'époque. Ça va quand même soulever quelques réactions, notamment de la part de scientifiques comme Einstein, même s'il a pu contribuer à ses recherches à d'autres moments. Et finalement, on va s'apercevoir que quand même cette recherche scientifique elle peut avoir des effets franchement très négatifs. Et donc, il y a quand même à l'international, il y a pas mal de gens qui se lèvent plutôt contre le nucléaire. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir continuer à mobiliser toutes ces ressources ? Il va y avoir l'idée de dire il faut que ça serve à tout le monde, et donc ça va être le nucléaire civil. Et le fameux mantra que le président états-unien brandira, qui va être « Atom for peace », et donc l'atome pour la paix. Et donc cet outil qui a servi à la mort, on va le transformer en un outil de paix en l'offrant à toute la population pour avoir une énergie bon marché. Par exemple, il dit à la tribune, Eisenhower donc dit à la tribune de l'ONU le 8 décembre 1953, l'objectif de mon pays est d'aider à sortir de la chambre des horreurs pour aller vers la lumière, pour trouver une manière de faire évoluer les espoirs des hommes et les âmes des hommes, d'où qu'ils soient, vers la paix, le bonheur et le bien-être. On voit qu'il y a une sorte de grand écart entre Hiroshima et Nagasaki et ce discours à l'ONU. Serge.
Une précision importante par rapport au nucléaire dit civil. En fait, cette décision Atom for Peace a été prise par les politiques et en fait les scientifiques, ceux qui travaillaient sur ce projet-là, ont été amenés très rapidement à faire à proposer un réacteur. Et c'est important de savoir parce qu'en fait, ce réacteur n'a pas été complètement complètement étudié scientifiquement, a été lancé extrêmement vite, notamment à partir d'un réacteur qui avait le sous-marin militaire américain. Et c'est en gros, je pense qu'il faut bien écouter ça, les auditeurs, voire les spectateurs, c'est en gros ce modèle de réacteur qui fonctionne encore aujourd'hui. Donc, on fonctionne, avec effectivement tous les incidents qu'il y a eu, ils ont été amenés à faire des choses en plus. Mais le modèle de fond qui sert, c'est ce modèle archaïque, complètement archaïque, et qui a été très peu étudié sur le plan de la sécurité. Et c'est encore aujourd'hui, même l'EPR ou OPR2, les principes sont toujours les mêmes. Voilà, c'est une petite parenthèse importante quand on nous fait croire que plus on avance dans le temps, plus les réacteurs qu'on fait sont étudiés, etc. Non, depuis le départ, le problème est vicié du point de vue de la sécurité, puisque c'était uniquement un réacteur qui servait au niveau militaire, dans les sous-marins. Voilà.
Et donc effectivement, comme vient de l'expliquer Serge, quand ce projet Atom for Peace est lancé, il faut réagir vite et donc avoir de quoi proposer le fait de pouvoir construire des centrales qui vont produire de l'électricité. Et donc c'est ce que Serge vient d'expliquer. Et ce qui est prêt, les réacteurs qui servent aux sous-marins. Donc c'est ça qu'on va utiliser et c'est le modèle un peu plus sophistiqué quand même, admettons-le, qui est à l'œuvre aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a eu un glissement comme ça de la naissance très militaire et destructrice du nucléaire vers quelque chose de plus qui pourrait servir la paix. Cette sorte d'instrumentalisation, en fait, va être utilisée très souvent. Par exemple, pour remonter un peu plus loin, au moment de la nationalisation du canal de Suez, en 56, si je ne dis pas de bêtises, ça va constituer une menace, en fait, pour les importations, la circulation des pétroliers qui amènent le pétrole du Golfe. Et donc, les Français, notamment, vont être inquiets et se dire que ça, c'est une menace. Et donc, ça va être un des premiers leviers pour commencer à financer très fortement une recherche sur le nucléaire. Ce qui est plus connu et plus près de nous, c'est 1973, la crise pétrolière. En un an, le prix du baril de pétrole est multiplié par 5. Et là aussi, il y a une inquiétude face à cette crise sur l'approvisionnement en énergie de nos sociétés occidentales. Et donc, la nucléocratie va pouvoir répondre en disant « Ah, nous, on a une idée, on a une solution pour fournir de l'énergie de façon indépendante. » Je mets les guillemets de rigueur à indépendance. Et donc, c'est assez vite, à la suite de cette crise dite pétrolière de 1973 et des années qui ont suivi, que le plan Messmer va se mettre en route pour répondre à cette inquiétude de la crise. Et donc les très nombreuses centrales nucléaires qu'on a encore en activité aujourd'hui vont être construites. On sait qu'il y a eu quelques mésaventures sérieuses dans le nucléaire civil de par le monde. Je rappelle les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, catastrophe toujours en cours puisqu'elle continue à faire des dégâts et des victimes. Et donc que ces deux catastrophes ont tout de même réfréné un peu les ambitions ou l'adhésion des populations au programme nucléaire civil. Et donc il allait falloir trouver quelque chose d'autre pour aider à l'acceptation des dangers éventuels du nucléaire. Dans cette période, par exemple, après globalement après Fukushima, que l'Allemagne décide de mettre fin à son programme nucléaire civil et d'arrêter progressivement les centrales nucléaires, ce qui est en train de se faire et d'aboutir. D'autres pays d'Europe, la Belgique se pose la question d'un arrêt, prolongement un peu, mais sûrement pas de nouvelles constructions. Les Suisses semblent suivre le même chemin. Les Italiens ont arrêté leur programme. Les Espagnols, je crois, suivent plus ou moins le même chemin. Donc on voit qu'il y a aussi un désengagement. Et donc il allait falloir trouver quelque chose d'autre pour motiver une autre crise à résoudre. Et donc c'est là que va intervenir le climat ou la crise climatique. Un certain nombre de comment dire... Vas-y, Serge.
Juste une parenthèse pour situer la, le déclin du nucléaire. En 15-20 ans, la part du nucléaire dans l'électricité mondiale est passée de 21% à 10%, un peu moins de 10% aujourd'hui, ce qui représente à peu près un peu moins de 2% de l'énergie primaire. Donc les gens qui nous disent qu'on va sauver le climat en faisant des trucs avec ça, en dehors de plein d'autres arguments, ils se foutent de notre gueule.
Mais bon, en tout cas, à mesure que ce souci du climat et de la crise climatique va pénétrer l'ensemble des populations, cet argument va être repris par les nucléocrates pour mettre en avant le nucléaire comme étant la solution à la crise climatique. Hein, en disant, en avançant notamment l'argument selon lequel quand les centrales nucléaires sont en production, l'énergie qu'elles produisent est décarbonée et donc voilà, pas de production de CO2 et donc voilà la solution à la crise. On pourrait rajouter plus près de nous encore avec la guerre en Ukraine qu'on évoquait tout au début, que là aussi ça a généré une crainte sur l'alimentation, la fourniture en énergie des sociétés occidentales. Et donc le nucléaire s'est aussi engouffré dans la brèche en disant « Ah oui, regardez, nous on peut garantir l'indépendance énergétique de la France ». Ce qui là aussi peut être très facilement contesté puisque les ressources en uranium, il n'y en a aucune en France. Les dernières mines ont été fermées et donc ça se trouve au Kazakhstan, au Niger, au Canada, en Australie et un cinquième pays je crois. Ce qui n'est pas tout à fait un gage d'indépendance. Mais en tout cas, l'argument a fait son choix et on s'aperçoit que le nucléaire peut s'avancer assez facilement pour prétendre solutionner des crises ou en tout cas être la bonne solution à ces crises. Je m'y perds, je ne sais plus ce que je voulais dire à ce moment-là. Mais je l'ai retrouvé. Alors oui, j'ai retrouvé comme ça dans la presse, parce qu'il y a pas mal de livres qui sortent d'un peu de toutes sortes. On connaît évidemment Jean Covici, mais il a plein de suiveurs. Mais dans des livres, là c'est je crois le livre d'un type qui s'appelle Jean-Luc Alexandre, Supélex, puis Batignol, il travaille dans le ferroviaire, Alstom, tout ça, donc on voit un peu d'où il est. Lui il dit par exemple « Électricité propre et décarbonée. Le nucléaire est une solution stratégique pour lutter contre les modifications climatiques ». Bon, tout est dit, on peut y aller. J'en avais trouvé un autre qui était intéressant, mais oui, c'est ça, il disait aussi quelque part, l'énergie qui réconcilie croissance et environnement.
T'as pas une petite citation de l'inénarrable non. Jean Covici,
qu'il est trop connu.
Lui. Pas, parce que quand même, il figure pas mal à la télé, ce monsieur.
Voilà, donc cette mise en scène, tout ça, va contribuer à installer cette histoire-là que le nucléaire va nous permettre, finalement, de ne rien changer. Et c'est peut-être ça qui peut expliquer le succès de cet argument dans la population en général, parce que, sans doute, ce qui est toujours effrayant, c'est de se dire qu'à l'annonce d'une crise ou d'un possible manque, il va falloir changer nos modes de vie, un certain nombre de pratiques, sans parler de revenir à la bougie, mais cette crainte de devoir changer est finalement quelque chose qui fait qu'on a tendance à accepter peut-être le pire, pourvu que notre mode de vie puisse continuer à fonctionner. Donc c'est ça qui va conduire, qui va donner, qui va faire en sorte que c'est très difficile aujourd'hui de mobiliser sur l'atome et sur les luttes et qui va conduire le gouvernement à vouloir relancer la construction de centrales nucléaires. Donc il y en a deux qui sont prévues sur le site de Penly près de Dieppe. Pour les deux premiers EPR qui seraient à venir de cette première tranche de 3x2, suivi par Gravelines et le Bugey, si je ne dis pas de bêtises, à suivre. Donc c'est un peu toute cette relance et ces discours un peu erronés qui nous ont conduit à vouloir produire un texte et de la connaissance qui serait accessible pour tous dans des textes courts et compréhensibles et à un prix tout à fait modeste puisque ce petit livre est au prix de 5 euros. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce petit livre ? Je vais vous en donner un petit peu le sommaire, puisqu'on a essayé d'attirer des auteurs, que ça permette de donner aussi un panel assez vaste des différentes questions qu'aborde le nucléaire, qui ne sont pas que de sécurité ou de santé, mais qui sont aussi des questions liées à quelle société on veut. On pourrait dire, et je pense que d'une certaine façon le nucléaire est un projet de société, et ce dont je suis convaincu, que c'est pas celui qu'on veut, et je pense que c'est important de se battre pour que ce projet de société n'intervienne pas, n'advienne pas.
Juste un mot là-dessus, dans les débuts du mouvement anti-nucléaire des années 70, qui n'était pas encore pollué par divers politiciens qui sont arrivés par la suite, les banderoles classiques, c'était société nucléaire, société autoritaire. Donc, situé dès le départ, le mouvement écologiste, plus exactement le mouvement anti-nucléaire, savait très bien à quoi il s'attaquait. Il y avait tout l'aspect, effectivement, risque, mais il y avait tout l'aspect risque d'un mode de société autoritaire. Je pense qu'on va parler un peu de Bure, on verra un peu comment l'État gère un peu ses affaires. Enfin bon. On en parlera à la fin de l'intervention.
Il y avait aussi un slogan que j'ai vu sur des photos un peu anciennes comme ça, qui disait « on ne veut pas des centrales, on veut des hôpitaux ». Je pense que ça reste assez d'actualité, puisqu'on a un gouvernement qui nous dit qu'il n'y a plus de sous dans les caisses et qu'il faut faire des économies. Je pense qu'on pourrait leur dire qu'on préfère des hôpitaux plutôt que de nouvelles centrales. Alors, qui est-ce qu'on retrouve dans ce... dans les contributions de ce petit livre. Tout d'abord, Roland Desbordes, qui signe un texte qui s'appelle « Les fausses promesses du nucléaire », puisqu'effectivement, le nucléaire ne cesse de faire des promesses d'une énergie propre, infinie et bon marché. Roland Desbordes, c'est quelqu'un qu'on connaît bien pour l'avoir reçu plusieurs fois à la radio. Il a été directeur, c'est l'actuel porte-parole de la CRIRAD. La CRIRAD, c'est le laboratoire indépendant qui a été fondé immédiatement après la catastrophe de Tchernobyl. Et c'est le laboratoire qui fait des mesures dans différentes circonstances et qui permet de très souvent de contester ou de mettre en défaut ce qui est annoncé par les autorités publiques dans ce domaine-là.
Juste une précision sur la CRIRAD. Le CRIRAD refuse toute subvention, d'où l'importance de I comme indépendant.
Donc une première contribution qui s'appelle « Les fausses promesses du nucléaire ». Second texte qui est le plus long, c'est celui de Bernard Laponche. Ça s'appelle « La production d'origine nucléaire et ses risques ». Bernard Laponche, c'est un ancien ingénieur du CEA, donc c'est un de ceux qui a contribué à la mise en route des premiers projets de centrales civiles. Il connaît bien, donc il a mis les mains dans le neutron, il sait bien de quoi il parle. Et son texte est vraiment intéressant, puisqu'en fait, il va expliquer un peu tout ce qu'est le cycle du nucléaire et comment ça se fabrique. Et je pense que c'est très important, parce que on peut avoir tendance à penser que cette affaire-là, ben, c'est compliqué, c'est une sorte de technicien, de scientifique, et que nous, on a un vague bac, on a fait un peu de physique, mais pas plus. Et donc, on n'y connaît rien, on va laisser ça aux experts, quoi. Et en fait, je pense qu'on peut comprendre les choses assez simplement. Et le texte de Bernard Laponche, qui est tout à fait passionnant et facile à lire, permet cette compréhension.
Et oui, et il nous a aidé à faire un beau schéma, parce que le nucléaire, quand on parle de nucléaire aux gens, ben, ils disent finalement, alors le nucléaire, bon d'accord, c'est dangereux, il y a les réacteurs, mais le nucléaire, non, c'est depuis l'uranium qu'on va chercher jusqu'à les saloperies qu'on va mettre à Bure ou ailleurs. Si... Voilà, donc il explique bien dans son texte et aussi en travers le schéma. Et ça, il faut vraiment en être conscient, parce que lutter sans le nucléaire, c'est aussi être aux côtés des gens du Niger qui sont en train de se ramasser de la flotte avec plein d'uranium, etc. etc. D'où le titre d'ailleurs, voir vraiment l'ensemble de ce que ça veut dire le nucléaire.
Donc la production d'origine nucléaire et ses risques par Bernard Laponche. La troisième contribution, c'est une contribution d'Annie Thébaumoni, qui est une sociologue du travail en santé publique, ancienne directrice de recherche à l'INSERM. C'est une personne qu'on a reçue aussi régulièrement dans Trou Noir. Et son texte s'intéresse à l'invisibilité du travail et des travailleurs et des maux du travail dans le nucléaire. Annie Thébaumoni, par ailleurs, elle s'était beaucoup intéressée à tout ce qui s'est fait autour de l'amiante et au combat qui ont dû être menés pour mettre en évidence et bien prouver que le fait d'avoir été exposé à l'amiante a bien contribué à développer des maladies du travail. C'est important à comprendre et de faire ce rappel, parce qu'en fait, dans tout ce qui est maladie du travail, la preuve est presque toujours l'affaire de ceux qui sont malades. Et c'est-à-dire qu'on va toujours essayer de dire oui, bon, d'accord, il a travaillé dans tel milieu, mais enfin, il fumait des cigarettes, il buvait un peu de temps en temps, donc peut-être que s'il est tombé malade, c'est pas que à cause du milieu dans lequel il a travaillé. Il faut savoir que dans le nucléaire, il y a les gens sont suivis, mais il y a différents types de salariés. Il y a évidemment les salariés d'EDF qui sont les plus surveillés et plutôt les moins exposés. Et puis il y a toute une chaîne de sous-traitance dans laquelle on retrouve tout un tas de sociétés, et notamment des sociétés qui emploient des intérimaires, et où là la surveillance est de moins en moins forte. Et donc induit des personnes qui vont être peu surveillées ou beaucoup moins, et donc être beaucoup de plus en plus exposées à d'éventuelles maladies.
Juste une précision sur ces sous-traitants. Non seulement ils ne sont pas surveillés, mais c'est eux qui font tous les boulots les plus dangereux. Et en plus, il y a des accords avec certains pays, par exemple le Maroc, pour fournir des gens. Quand ils ont eu un peu trop, on les renvoie chez eux, on en fait venir d'autres. Enfin, il y a toute une magouille autour de ça, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On envisage de faire une émission avec quelqu'un qui a essayé d'organiser qui travaillait à EDF et qui a organisé ses travailleurs, et évidemment, il s'est fait virer.
Oui, il y a des choses dont il ne faut pas trop parler, puisque... Serge l'évoque, mais j'ai fait la petite introduction sur le militaire pour bien comprendre qu'en France, militaire et civil, c'est intimement lié. Et donc, s'attaquer au nucléaire, c'est finalement s'attaquer au militaire. Et donc, tout ça, secret défense, on comprend que c'est bien défendu, on va dire. Quatrième texte, c'est un texte de Philippe Pelletier, Impasse nucléaire et climatique. Philippe Pelletier est géographe, spécialiste du Japon, auteur notamment de Climat et capitalisme vert. C'est aussi un des contributeurs importants de ce groupe du réseau MACNO. Donc il a contribué à la coordination et la rédaction de ce livre. Et Philippe Pelletier s'intéresse dans ce texte lié au climat à la question « Le nucléaire va-t-il sauver le climat ?» Sa réponse est négative, et il montre en fait l'usage politique et économique qu'on peut faire du catastrophisme, c'est-à-dire qu'en mettant en avant le fait que la crise climatique va induire tout un tas de catastrophes, que c'est aussi une manière de mettre en avant le nucléaire comme la solution. Donc voilà, c'est un texte qui essaye de montrer la manière dont la crise climatique est instrumentalisée pour servir les intérêts du nucléaire. Je vais terminer. Je bois un verre d'eau. cinquième contribution, qui est celle de... Là, on revient un peu plus, je dirais, dans le domaine de la santé et des effets du nucléaire, de l'exposition à des radiations importantes sur les populations. C'est un texte d'Yves Lenoir. Yves Lenoir était ingénieur des mines et il est maintenant président de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus. Enfants de Tchernobyl Bélarus, c'est une association qui, depuis la France, travaille en coordination, en collaboration avec des médecins du Bélarus pour tenter de mettre en évidence les différents dégâts qu'ont fait les irradiations liées à la catastrophe de Tchernobyl sur les populations. Ce qui est très bien mis en évidence, il y a le texte de Yves Lenoir, mais aussi un certain nombre de tableaux statistiques, c'est que cette catastrophe continue, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à mourir de Tchernobyl. C'est-à-dire des enfants qui n'étaient, des petits-enfants qui n'étaient pas nés, induisent un certain nombre de maladies qui sont clairement liées à l'irradiation ou à la consommation ou le fait de vivre dans des milieux qui sont encore plus ou moins fortement irradiés. Et
Serge. Oui, il a fait. D'ailleurs, ceux qui s'intéressent auprès à ça, enfin, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que ça montre que les effets du nucléaire peuvent se transmettre de génération en génération pour des raisons génétiques ou autres. On en est quand même à la troisième génération. Et effectivement, par exemple, les enfants, il y a 80% des enfants qui sont malades, qui sont. C'est une espèce de vieillissement qui se fait. Bon, enfin, il y a sur Internet, il y a un certain nombre de documentaires qui ont été faits là-dessus. Et ce qui est assez intéressant, c'est comment la communauté internationale s'est intéressée à ça. Bon, elle a fait des plans, ils ont envoyé des gens. Mais ils n'ont pas envoyé des médecins, ils ont envoyé des psychologues et des psychiatres. Parce que la version officielle, c'est que le nucléaire, c'est dangereux parce qu'on en a peur. Je ne blague pas, c'est écrit. Ce qu'il faut, c'est développer sa résilience. Pour résister au nucléaire, il faut développer sa résilience. Au contraire, les chocs comme ça, ça nous rend plus forts. Enfin, vous avez peut-être entendu parler de ce genre de discours qu'on n'applique pas qu'au nucléaire. Plus on en prend plein la gueule, mieux ça vaut, plutôt que d'essayer d'intervenir avant les catastrophes. Pour vous dire la mentalité ou ce qu'on essaie de faire croire aux gens, alors évidemment, par exemple, Yves Lenoir, il a travaillé sur les statistiques de maladies qui se développent au bout de tant d'années, des gens qui ont été enfants de liquidateurs ou autres. Et la réponse des autorités, c'est parce que oui, mais là-bas, en Ukraine, les gens boivent plus que d'autres. C'est parce qu'ils sont alcooliques. Des enfants qui, à 7-8 ans, ont des problèmes de santé, qui sont alcooliques, bon, je vous laisse voir le cynisme de ces gens-là.
Et aussi, dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire qu'il y a des... ce que je disais tout à l'heure à propos de la santé, c'est que parfois on a du mal à dire pourquoi et quelle est la cause du fait qu'on développe telle ou telle maladie. En revanche, il y en a certaines dont on sait qu'elles sont strictement liées à l'exposition à la radioactivité. Mais là, il y a des statistiques qui sont que les médecins bélarusses ont interdiction de divulguer. Par exemple, c'est les statistiques sur les leucémies chez les enfants. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que la moyenne, mais il est absolument interdit de divulguer, de faire part de ces statistiques-là, puisque ça serait une trop grande évidence. Sixième contribution, c'est celle de Thierry Ribaud, qui est un sociologue, chercheur en sciences sociales. Et il se trouve qu'il était au Japon au moment de la catastrophe de Fukushima, donc il l'a vécu sur place parce qu'il était là-bas pour un labo de recherche. Et il s'est intéressé à la manière dont on a essayé de contraindre, forcer en douceur la population japonaise à accepter ce qui était une catastrophe et de vivre avec. Et donc, notamment, c'est un texte sur la... le texte s'appelle « À Fukushima et ailleurs, la résilience, une technologie du consentement ». Et donc, il travaille à décortiquer ça. C'est un mot, la résilience, qui est beaucoup arrivé, qu'on entend partout maintenant à toutes les sauces. Il faut être résilient. Si tu tombes par terre, relève-toi, sois résilient. Voilà. Et donc, on explique quand même, à partir de ça, la population japonaise, comment finalement c'est pas si grave. Et donc, finalement, il faut qu'ils retournent vivre sur les terres qui ont été vaguement décontaminées, d'où ils ont été. On leur a demandé de partir au moment de la catastrophe. Et là, de plus en plus, au Japon, on incite les populations à revenir dans les villages qui ont été contaminés il y a un peu plus de 10 ans. Quoi. Donc c'est assez intéressant, puisque c'est aussi, je dirais que c'est aussi ce qui nous attend. Parce que la catastrophe, c'est pas forcément que chez les autres. Ça peut aussi arriver ici. Ce discours sur la résilience, on a commencé à l'entendre dans la bouche de tous les politiques. Et donc, il y a quand même un discours sur l'acceptation, sur le fait de, du moindre mal, ou je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, qui est un discours d'État qui contribue à essayer de nous faire accepter tout ce que contient le nucléaire comme un moindre mal, ou voilà, quelque chose de nécessaire à notre mode de vie. Donc voilà. Une réflexion sur la fabrique de la soumission et du consentement. Et puis, dernier texte, celui de Jean-Marc Royer. Jean-Marc Royer, il était ingénieur de l'aviation civile, historien et sociologue, et l'auteur d'un texte passionnant qui s'appelle « Le monde comme projet Manhattan », et dans lequel, en fait, il décortique toute la genèse du projet Manhattan, donc le projet industriel, scientifico-industriel, qui a contribué à l'élaboration des deux bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Et donc, il révèle dans ce livre tout un tas de choses assez passionnantes, notamment sur... Il démonte le mensonge ou la justification selon laquelle ces bombes auraient été larguées pour mettre fin à la guerre, alors que, de fait, la guerre était terminée. Et selon lui, avec le nucléaire, on est arrivé à une nouvelle époque de l'histoire de la Terre et des hommes. Et c'est là-dessus qu'il veut essayer d'attirer notre attention. Et c'est très important, puisque le nucléaire, c'est pas juste une affaire, comme j'ai dit à un moment, de santé, de danger, tout ça. Mais je pense ça fait aussi partie d'un projet plus global, qui est un projet étatique, centralisateur, dominateur, et qui est typiquement le genre de projet que nous ne voulons pas. Je pense qu'intimement, personne ne le veut. Peut-être qu'on n'en est pas conscient. Et je pense qu'en tout cas, en tant qu'anarchiste, c'est assez précisément ce dont nous ne voulons pas. Donc c'est important aussi d'avoir cette notion de ce qui s'impose à nous à travers le projet du nucléaire d'État tel qu'il est proposé en France. Donc voilà à peu près les sept grandes contributions qui sont proposées dans ce livre.
Oui, en complément, pour ceux qui seraient intéressés, bon, évidemment, il y a le livre, mais en fait, qui est issu, comme l'a dit Nicolas au début, de contacts qu'on a eu à Radio Libertaire avec ses intervenants. Donc, ceux qui voudront aller plus loin que ce petit livre, je renvoie aux émissions qu'on a pu faire. Alors, au fait, Trou Noir au pluriel, Radio Libertaire, vous tombez sur le podcast. Et à l'intérieur, c'est une émission multiclimatique dont le thème Terre et radioactivité, il y a à peu près de mémoire une cinquantaine d'émissions. Hein. Donc vous pouvez avoir beaucoup plus de détails qui vont plus loin à partir de ces intervenants du livre et d'autres. Voilà.
Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Mais sinon, on peut commencer à prendre des questions, sinon on peut commencer à raconter d'autres choses. Je tombe sur une petite citation qui illustre un petit peu tout ça, c'est-à-dire sur les fantasmes et les fictions du nucléaire. En 1952, donc on est au tout début de tout ça, il y a un monsieur qui s'appelait Félix Gaillard. Il a été secrétaire d'État aux finances, c'est des choses qui arrivent à d'autres. Et il disait, fabriquer de l'or est peu de chose auprès de ce qu'a réussi l'alchimie moderne en fabriquant du plutonium, qui vaut beaucoup plus que l'or et deviendra plus vite que l'or la source de la richesse et de la puissance du pays. Vous voyez, c'est dit assez clairement quand même que grâce au nucléaire... Voilà, tout... Ah, le chien est hostile à cette citation, je comprends. Voilà, c'est une petite citation. Y a Anne qui est dans la salle qui avait transmis un QCM, donc je ne sais pas si on peut faire participatif, puis après on pourra dire d'autres choses, mais je m'étais posé la question, mais je n'ai pas la réponse. À quelle distance, là on est à Merlieu, entre Soissons et Laon, à quelle distance sommes-nous d'une installation nucléaire? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse à ça. Attends, voilà, on va faire arriver le micro pour que les auditeurs entendent.
Pas trop loin, parce qu'on a lu dernièrement, je pense que c'est dans l'Union, un maire qui se posait question justement pour le nettoyage de ses terres, puisqu'il y avait il y a eu des essais nucléaires par chez lui. Alors je ne sais plus le nom du village. C'est juste derrière Reims, donc c'est vraiment pas très très loin, en pleine champagne, là où il y a les bons raisins. Et donc son problème, c'est qu'actuellement, la terre, elle ne nettoie plus tout ce qu'il y a au-dessus, mm-hmm. et que ça va bientôt toucher la nappe phréatique. Uh-huh. Donc voilà, voilà. Alors... Mais bon, vous regardez dans les journaux, c'est de cette semaine.
Alors, justement, une question dans ce...
Si je peux juste compléter, il y a une émission sur Arte, je crois, le 17 octobre, sur ça.
D'accord.
J'avais une question. À votre avis, en cas d'accident nucléaire...
Je ne sais pas, ici à Lens...
Qui est responsable de ce qui va se passer dans la zone, alors qu'il fera peut-être 80 ou 100 kilomètres autour? Quel est l'organisme qui va prendre les décisions et les actions? Est-ce que quelqu'un dans la salle sait? C'est simple, hein, cherchez pas des trucs compliqués. Hein.
Je sais pas, la préfecture?
Non. Pas de réponse? C'est l'armée. C'est prévu, hein, dans les têtes.
Alors, voilà, pour ce qui est des distances, donc le QCM propose trois réponses possibles. À quelle distance maximum d'un réacteur, se trouve un habitant dans notre beau pays de France? Donc, il y a trois propositions. Les deux tiers de la population, 66%, se trouvent à moins de 75 km d'un réacteur. 15%, donc deuxième proposition, 15% se trouve à moins de 150 km. Et troisième proposition, 95% se trouve à moins de 300 km. Alors, je vais faire lever les doigts. Donc, première réponse, 66%, moins 75. Volontaire, non. Deuxième réponse, 15% à moins de 150 km. Une réponse. Et pour 80, donc la troisième serait 95% de la population se trouve à moins de 300 km. La bonne réponse, c'est que les deux tiers de la population se trouvent à moins de 75 km d'une installation nucléaire dans notre beau pays. Alors, voilà. Alors, le périmètre de risque, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le périmètre de risque, c'est ce qu'on définit comme la zone où c'est très très dangereux autour d'une centrale en cas d'accident. D'accord ? Tchernobyl, on peut considérer qu'il y avait une zone de risque. Voilà. Et donc les propositions sont les suivantes. La zone de risque autour d'une centrale, le périmètre de risque, pardon, c'est 300 km, 60 km ou 20 km. Alors, je vous laisse lever le doigt. Donc qui pense que c'est 300 km? Ouais. Alors, pour vous encourager, il y a des pastilles d'iode à gagner. Hein. C'est une nouvelle marque de pastilles d'iode, ça s'appelle Tic Tac. Voilà. Alors, 300 km, quelques... 60 km. Ouais. Et 20 km. Et oui, c'est 20 km. Donc voilà, si vous êtes à 25, vous craignez rien. Enfin, c'est pas dire que vous craignez rien, mais en fait, on fera pas grand-chose pour vous. C'est-à-dire, je parlais de pastilles d'iode, mais les stocks de pastilles d'iode à distribuer aux populations à proximité des centrales en cas d'accident, ben, ils sont prévus pour 20 km. Donc si vous êtes un peu plus loin, ben, ouais, vous pouvez toujours manger du, je sais pas quoi, du foin, enfin un truc. Mais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, pastilles d'iode, j'ai une question pastilles d'iode. Allez voir. Alors, à quel moment faut-il prendre les pastilles d'iode suite à un rejet de nuages, un style Tchernobyl, des trucs comme ça, quoi. Donc, pendant un mois, après l'incident, sous 48 heures, ou dernière proposition, 4 heures avant les rejets. Alors, un mois, 48 heures, 4 heures avant. Non, c'est 4 heures avant, apparemment. Ben, c'est ça, c'est un peu ça le problème, c'est que si vous aviez des bonnes réponses, je vous en aurais donné, mais personne n'a les bonnes réponses. Ah, Serge.
Oui, juste une pour montrer comment se comportent les autorités et les États quand il y a un accident nucléaire. Suite à par rapport aux capsules d'iode, c'est pour ça que j'y pense. Suite à l'accident de Fukushima, l'attitude de l'État, c'était surtout il ne faut pas affoler les populations. Donc il ne faut pas distribuer les pastilles d'iode. Il y a une commune, je ne me rappelle plus, en plus c'est un nom japonais, le maire a pris la décision de les distribuer et il s'est fait sacrément taper sur les doigts. Donc, il y avait toute une phase, même l'OMS, si vous regardez le communiqué de l'OMS, rapidement après Fukushima, il ne faut pas affoler les populations. C'est la peur du nucléaire qui fait mourir les gens. Non, mais j'ai l'air de blaguer, mais lisez les documents de l'époque, vous verrez que je ne blague absolument pas, malheureusement.
La radiophobie, on parle de radiophobie. Oui, Monique.
Oui, une toute petite intervention. 4 heures avant, c'est 4 heures avant que les rejets n'arrivent sur vous. Pas 4 heures avant que les rejets s'effectuent sur place. Parce qu'autrement, on pourrait se dire, bon, bah, on s'en fout, à la limite, ça sert à rien à personne. Ce qui est faux. Puisque si vous n'êtes pas juste à côté, mais que vous êtes prévenu à temps, 4 heures avant, ça marche. 4 heures avant que ça arrive sur vous.
Voilà, tu auras une pastille d'iode, Monique. Autre information intéressante, et ça va faire augmenter le niveau d'angoisse générale. Je suis désolé. La prochaine fois, vous irez à la conférence climat. C'est moins anxiogène. Vous savez qu'il y a... Il y a 56 réacteurs en fonctionnement en France. Il y en avait 58, mais Fessenheim en a fermé deux. Donc il y en a 56 en fonction. On a considéré que l'âge au-delà duquel un réacteur devrait être fermé, c'était 40 ans. Certains disent 30 ans, mais bon, on va dire 40 ans, on va être généreux. Et si vous savez à peu près quand ça a commencé, hein, dans les années 70, donc on compte assez vite. C'est-à-dire qu'en 2030, plus de 90% des réacteurs présents sur le territoire français auront 40 ans ou plus. Donc ça veut dire qu'ils sont théoriquement fragilisés, un peu. Ou en tout cas, ils devraient être fermés. C'est ce qui était prévu au début. Mais en tout cas, ce qui est prévu, c'est qu'ils continuent à être exploités pendant au moins encore 20 ans. On parle de 60 ans. Il y a quelques poètes qui parlent de 80, la fleur de l'âge. En tout cas, on peut aussi raisonnablement être inquiet de ça. Voilà. Je ne sais pas si à partir de ça, il y a des questions ou des réactions. Serge.
Non, je voudrais juste rajouter quelque chose, hein, puisque là on parle d'accident, enfin de catastrophe. D'ailleurs, dans le langage qu'on doit dire, c'est pas catastrophe nucléaire, c'est excursion nucléaire. Parce que ces gens-là ont travaillé avec des linguistes pour trouver les mots qui transformaient la réalité. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un enjeu par rapport aux suites des accidents, très importants, aussi bien à travers Tchernobyl, à travers y compris Three Mile Island, qui était avant, enfin à travers Fukushima, c'est dire, bon, d'accord, il y a une catastrophe, les gens qui sont dans un périmètre d'eux, d'ailleurs, la notion de périmètre avec le vent, la pluie, tout ça, plus dire grand-chose, mais c'est surtout que ceux qui sont loin, bon, c'est des petites zones, etc. Et donc, l'effet... Il y a eu toujours une bagarre très importante à mener contre les autorités pour montrer que l'effet à petite dose peuvent être extrêmement dangereux. D'où, par exemple, tout le travail qui est fait par Yves Lenoir, enfin, et qui est extrêmement important. Parce qu'à ce moment-là, les gens se poseraient les problèmes du nucléaire, non pas après un accident, mais ils vivent pas très loin d'une centrale, et les gens qui travaillent là-dedans, etc., tous les cancers qui commencent à apparaître. Et ça, vous verrez que ceux qui travaillent un peu là-dessus, il y a un enjeu énormément sur ce qu'ils appellent les doses faibles. Voilà. Donc, ça touche pas que le nucléaire, ça touche un tas de produits. On est comme en toxicologie. En dessous d'un seuil, tout va bien. Voilà. Quand on voit comment le seuil a été mis en place à l'origine, où en fait il a été mis en place pour des raisons économiques et pas du tout pour des raisons de santé, là aussi je vous regardais un peu le problème. Donc cette notion de dose faible est extrêmement importante parce qu'elle remet en cause non seulement par rapport au problème de l'accident, mais par rapport au fonctionnement avec des guillemets normal. Voilà.
Oui, pardon, vas-y.
Et du coup, quelle solution par rapport à la crise écologique, donc plus pour ce qui est énergie, etc., pourrait remplacer ça, vu que justement vous critiquez le nucléaire en tant qu'énergie verte.
Alors effectivement, c'est toujours la question qui saisit, comment on fait, on repart à la bougie, enfin, un peu intense à se dire ça. De fait, ça a déjà eu lieu. C'est-à-dire que le Japon, au moment de Fukushima, les centrales sont arrêtées. Ça a dû sans doute compliquer la vie, mais ils sont pas retournés à la bougie. Ils ont commencé à remettre des centrales en route. Mais ils ont énormément développé d'autres sources d'énergie alternative. Donc, il y a quand même des choix et des manières de fonctionner qui sont possibles. C'est pas pour dire que toutes les énergies dites vertes, solaire, éolien, c'est parfait et tout ça, mais disons qu'on gère un peu mieux les conséquences de ça et elles sont pas pour 1000 ans. Voilà, c'est quand même des choses plus proches de nous. L'Allemagne, Serge vient de le dire, a décidé de l'arrêt de son programme. Alors, évidemment, à chaque fois, on dit oui. Oui, mais charbon, tout ça. Le charbon est en baisse à peu près constante en Allemagne dans le mix énergétique allemand. Et donc, ils ont programmé ça, en fait. Et donc, petit à petit, ils sortent de la dépendance au nucléaire et au charbon.
Oui, et puis, en plus, il ne faudrait pas oublier qu'on nous assène de plus en plus d'usage de l'électricité. Les voitures électriques, les trottinettes, les vélos électriques, etc., pour nous forcer à prendre l'habitude d'avoir besoin de plus en plus d'électricité. Et ça, bien évidemment, ça va pousser à l'acceptabilité du nucléaire. Donc on peut commencer par se battre contre ces fausses bonnes solutions pour sauver le climat.
Oui, non. Réponse complémentaire par rapport à ce qui était dans le sens que dit Monique, ça amène à s'interroger sur l'énergie, parce que là, on a l'impression que l'énergie, on peut en créer de plus en plus, on va en trouver peut-être des énergies qui polluent moins. Je pense qu'il faut qu'on se pose aussi le problème de cette société où on a de plus en plus besoin d'énergie, etc. Un deuxième aspect de la... Et là, c'est pas une solution, c'est que, bon, allez, on rêve, tout le monde descend dans la rue, on a compris ce que c'est que le nucléaire, le gouvernement a peur, il arrête le nucléaire. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait des centrales nucléaires? Qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires? Là, je prépare un petit peu l'intervention. Il faut pas oublier que même si on arrête, on ne sait pas quoi faire de plein de choses dans une centrale nucléaire. On ne sait pas où les mettre. Enfin, si, on sait mettre à bure, mais bon, on va pas faire des trous partout, ça veut dire... Enfin bon, je pense que l'intervention... Non, mais faut se rendre compte que c'est quelque chose qui a été mis en place par des politiques sans consulter les populations et que des générations entières vont avoir à gérer, même si on l'arrête maintenant. Voilà, alors c'est peut-être pas une solution, mais il faut être conscient de ça.
Un peu dans le prolongement de la question qui vient d'être posée, comment on fait ? Il y a aussi comment on fait pour s'opposer à ces plans, ces projets de nouvelles constructions pour lesquels, évidemment, nous ne sommes globalement pas consultés. C'est-à-dire qu'il y a bien des sortes de consultations un peu fantoches qui sont organisées. Alors, par exemple, à Penly, il y a eu une commission nationale du grand débat public qui a été organisée où sont censés pouvoir participer tous les gens du territoire concerné. Il se trouve que alors que la commission était en train d'organiser ses débats, ses échanges réguliers, Macron a annoncé c'est décidé, on met des centrales là à Penly, hein, et puis ailleurs. Donc en fait, ça donne une idée, enfin ça confirme l'idée qu'il se fait des consultations publiques ou législatives, c'est-à-dire que bon, on peut toujours les faire, mais à la fin, en même temps et quoi qu'il en coûte, je décide. Donc voilà, actuellement, il y a ce même type de consultation qui est en cours à Gravelines, puisque le deuxième site pressenti pour...